Bonjour, les papous en piste jusqu'à 13h59. À l'affiche, un inventaire et des lettres de vacances par Odile Conseil, Patrick Beignet, Jacques Bertrand et Jean-Bernard Pouy. Ensuite, le discours d'Eva Almassi aux insectes qui squattent sa maison.
Contrairement aux élucubrations d'Antoine, tarararararara, oh yeah! Les élucubrations d'Antoine dans Jules César de Shakespeare, je cite, « Je viens pour inhumer César, non pour le louer, oh yeah !» Moi, je viens réellement pour vous louer. Ici, c'est vous qui faites le buzz.
Place à un papou qui nous parle d'un autre papou. Il sera question de Gérard Mordia et d'Hamlet, le vrai. Et pour finir, le DLA pour les experts Jacques Vallée, Lucas Fournier et Patrice Delbourg.
Bon, ça se passe dans un pays un peu glaiseux, avec un moulin et une morgue. Mais alors, ça n'incite pas à connaître ni ce qui se passe avant, ni ce qui se passe après. C'est rare qu'un texte heurte l'œil comme ça si souvent. J'ai l'impression que c'est traduit du morse.
Ah oui, espoir. Françoise Tressard et la belle équipe vous souhaitent un joli dimanche papou à podcaster sur franceculture.fr pendant un an. Pour vos remarques ou questions, direction la rubrique commentaires sur franceculture.fr ou notre page Facebook, rejoignez le club. Merci de votre fidélité affectueuse et bienvenue à ceux qui nous écoutent pour la première fois. On se lance dans l'inventaire des choses de la vie qui vous rappellent quelqu'un. Je pense à toi. À chaque fois que je revois le Manhattan de Woody Allen, quand je bois un verre de Coteau du Layon, quand j'entends la voix de Cathy Berberian, quand mes yeux croisent un exemplaire de Tristram Shandy, on est tous pareils avec nos petites madeleines souvenirs. L'inventaire de Ricardo Meusner, Lucas Fournier, Jean-Bernard Pouy et Odile Conseil qui dit la première.
Il n'y a pas de fromage me fait immanquablement penser à Mordia. Notre Mordia, oui. Le lecteur attentif, le spectateur aux aguets, aura remarqué qu'elle est présente dans chacune de ses œuvres.
Ah, mon Dieu. Jean-Bernard Pouy.
Quand le soir, moi, sur la table débarque la tisane, face au visage défait des convives, j'entends toujours mon épouse entonner aussi sec. La nature a fait les plantes, herbes-en vous les présente et vous en serez content. Herbes-en, herbes-en.
Oula.
Elle se porte.
C'est joyeux chez les fouilles le soir. Ricardo Meusner.
Quand j'entends la voix de De Gaulle, je pense à toi. Aucune ressemblance, ma belle dernière fiancée. Mais la première phrase désagréable sortie de ta jolie bouche, comme réponse à mes plaintes, fut « La vieilleuse est un naufrage !»
Pauvre Ricardo. Et vous les choisissez mal, vos copines.
Oui, quoi, ouais.
Vous n'êtes pas sorti.
Je ne choisis pas trop.
Lucas Fournier.
Chaque fois que je mange de la brandade, je pense à Pierre Loti. C'est la rencontre extraordinaire de Rochefort-sur-Mer, où il est né, des pêcheurs de Paimpol, de la morue islandaise et du sel nîmois issu des salins du Midi. Tout ça dans une cuillère. Et chacun sa madeleine et moi c'est la morue.
Mais c'est bon.
Circule, virgule ou je t'apostrophe. On n'entend certes pas ça tous les jours, non. Mais quand ça arrive, ça me rappelle mon père qui avait tout un attirail de phrases de ce genre. Celle-là a dû me transmettre le goût de la ponctuation.
Ah oui, ou du calembour, je sais pas.
Quand je vois et j'entends à la télé un chanteur un peu ringard et ridicule, je pense toujours à mon père qui disait « Celui-là, il chante aussi bien qu'un cheval, mais il court pas si vite.
» Quand j'entends les mots « culture », non, je pense pas à Goebbels, ni à cette radio, mais à notre cher ami, ce joyeux luron de Patrice Minet, qui dans une pièce au Café Lagarde avait comme leitmotiv « Aucune culture, aucune culture !» quand les autres personnages se moquaient de lui.
Ah oui. Jean-Bernard Pouy.
À chaque fois que la caissière du supermarché me demande si j'ai la carte fidélité, je réponds automatiquement de s'occuper de ses oignons d'abord, parce que ça ne la regarde en rien, et parce que c'est pas mon analyste.
C'est vrai. Je pense à Van Gogh quand je ne vends pas de tableaux. Ben, puis j'appelle mon frère, mais comme il n'est pas marchand de tableaux, je me console en pensant que j'ai les deux oreilles.
Et les psychanalystes, c'est ça qu'il faut ajouter. Bah oui.
Moi, je pense à Philippe quand j'entends Vincent Delerme. Je pense à Louis quand j'entends Mathieu Chédid. Je pense à Jacques quand j'entends Thomas Dutronc. Mmh. Je pense à Jacques Higelin quand j'entends Arthur H. Je pense à Jean-Sébastien quand j'entends Carl-Philippe Emmanuel. Bref, je pense toujours au Père éternel quand je vois l'enfant prodigue.
Avec une petite préférence, hein, donc.
Pour le Père éternel, ah oui, toujours.
Mais... Odile Conseil.
Quand j'entends « Je me souviens », je pense à Pérec, bien sûr. Mais juste après, je pense aussi à la chanson « Le Galérien ».« Je me souviens, ma mère disait », adapté par Maurice Druon. Hein. Ou alors à Le Tellier, qui a édité au Castor Astral « Je me souviens de Je me souviens ». Enfin, « Je me souviens », ça me fait penser à beaucoup de monde, finalement. Oui.
J'aime bien quand la personne offre des fleurs, invité chez quelqu'un, offre des fleurs, et celui qui ouvre la porte fait « Oh, des fleurs !» Non, c'est des escalopes. C'est
où dit le conseil ?
La chanson « J'aime Paimpol et sa falaise » me fait penser à Pierre Rétex. Pourquoi ? Parce qu'il raconte que cette chanson lui a longtemps fait conjuguer le verbe « paimpoler ». Je paimpole la falaise, tu paimpoles la falaise, qui prenait pour une invention délicieuse.
Ah oui.
Et quand je vois quelqu'un tousser, s'étrangler, rougir subitement en buvant un verre d'alcool fort, je pense, bien sûr, comme tout le monde, immédiatement, à la scène mythique de Beuverie dans les Tontons Flingueurs. Vous savez, celle où il est question d'une boisson d'homme.
Il y a de la mûre.
Odile. Quand j'entends quelqu'un, n'importe qui, dire qu'il sue, du verbe suer. Oui. Je me souviens de ma mère qui nous racontait que les bonnes sœurs de l'institution Ségur à Roubaix, ma mère ne disait pas les bonnes sœurs, hein, mais elle disait « Mesdemoiselles, vous saurez que les animaux suent, que les hommes transpirent et que les jeunes filles se contentent d'avoir chaud. »
C'est très joli, je trouve. Hein.
Quand on parle, c'est un peu disparu maintenant, mais quand on parle du texte de Lénine, « Que faire ?» Je pensais toujours à Pierrot le fou, dans le Godard, oui. Et bien sûr à Anna Karina.
Qu'est-ce que je peux faire ?
Je ne sais pas quoi faire.
Chaque fois que je rencontre une femme, je pense à Catherine Ranger, à cause de « les histoires d'amour finissent mal en général ».
Mais la vie de Ricardo Rosner est absolument tragique.
J'ai envie de pleurer.
Quand j'entends « partir, c'est mourir un peu », alors je pense à Edmond Haraucourt, dont j'avais appris le poème en septième, et tout de suite après, je pense à mon père qui disait « mourir, c'est partir beaucoup ». J'ai longtemps cru que c'était lui, et pas Alphonse Allais, qui l'avait inventé. On ne devrait pas grandir.
Eh oui, vous avez perdu votre fraîcheur.
Mais il l'a peut-être inventé.
On m'a rapporté que quand j'étais tout petit, donc c'est vrai, j'étais perché sur ma chaise pour manger avec le rabbin. Et si jamais, au même moment à la radio, il y a fait des informations, qui à l'époque commençaient par un cri du coq, tonitruant, paraît-il, je regardais toujours, vaguement angoissé, un gros clou planté dans le mur en face de moi. J'étais persuadé pendant un ou deux ans que c'était le clou qui chantait.
Ah non,
ce qui prouve que mon état mental s'est quand même un peu amélioré depuis.
Ah non, mais vous avez progressé. Hein.
C'était le clou du spectacle.
Ouais, c'est ça.
Autre chose.
C'est désespérant, mais vrai. Chaque nuit, ou presque, quand je vais me coucher, je pense à Brad Pitt.
Ah bon, mais lui aussi pense à toi. Tu sais.
Dans les films cultes Fight Club, quand son personnage Tyler Durden déclare « S'améliorer soi-même, c'est de la masturbation. Se détruire soi-même, désespérant. »
Non, mais il vous inquiète aussi un petit peu, Ricardo.
C'est non, mais là, c'est dramatique, là.
Ah, oui, oui.
Là, on a assisté à une séance qui va être, je veux dire, historique. Historique. Elle était hystérique, ça, maintenant. Je veux dire historique.
C'est la période blues.
Siempre que me preguntas que cuándo, cómo y dónde, yo siempre te respondo, quizás, quizás, quizás.
Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando,
quizás, quizás.
Quizás, quizás,
quizás,
quizás,
quizás,
quizás. place aux lettres de vacances, aux vraies, écrites par ceux qui ont le courage de laisser leur mobile, leur ordinateur chez eux avant de partir. Il en faut de la force de caractère pour réussir le sevrage et revenir au bon vieux moyen de communication à la Sévigné. Jacques Bertrand, vous faites un break, quelques jours d'escapade.
Oui.
Ça se passe bien? Vous êtes qui?
Ça passe bien, alors je m'appelle Simon Siméon.
Oui.
Je suis journaliste, éditorialiste. Et j'envoie une cette lettre de vacances, c'est un courriel, à un confrère, jdd.dd@dd.fr.
Ah oui, c'est codé, hein, moi je...
Cher confrère et néanmoins ami, fatigué de la ferme familiale du Cantal et des camps de vacances sur le plateau du Larzac, autant que du dépaysement tropical, en compagnie de milliers de chemises tahitiennes et de bermudas à fleurs, j'ai longtemps hésité sur une possible destination. J'étais sur le point de renoncer à prendre des vacances. En désespoir de cause, j'ai opté pour le désert. Naturellement, je ne te dirai pas lequel. Tu le confierais à un tel, qui le répéterait à une telle, qui le laisserait entendre à l'ensemble de la rédaction, et qui sait si un rédacteur en mal de copie ne s'aviserait pas de publier l'information. On se croit tranquille dans le désert, et bientôt surgissent au sommet des dunes alentour des caravanes de touristes à dos de chameau ou de dromadaires, quand ce ne sont pas des théories d'apprentis terroristes en 4x4 ou en auto-chenille. De toute façon, je n'ai pas d'adresse, pas d'hôtel, pas d'auberge, pas de mobilhome, pas de tente. Un matin, moi qui signe régulièrement 3 ou 4 colonnes à la une, je me suis dit, et pourquoi pas des vacances sur une colonne? Un homonyme, il y a bien des siècles, y passait carrément plusieurs années. Rien n'est plus facile que de trouver des colonnes. Les Grecs et les Romains, ces grands spécialistes des ruines, en ont laissé un peu partout, y compris dans les déserts. Le chapiteau de la mienne est décoré de feuilles d'acanthe, le style corinthien. C'est de là que je t'envoie cette épître. La tablette électronique remplace avantageusement la tablette de cire. Pas besoin de stylet, et à propos de style, donc de styliste, je suis devenu stylite. Je n'édite plus, je médite. Ma seule inquiétude est de n'avoir pas prévu suffisamment de barres chocolatées. J'aurais peut-être dû emporter aussi une petite laine et un panama. Le soleil darde, les nuits sont fraîches. Je ne suis pas aussi seul qu'on pourrait croire. Il y a beaucoup de monde dans le désert. Des petits rongeurs, des scorpions, des serpents à sonnettes. Ça change des sonnettes médiatiques. De temps en temps, j'aperçois du haut de ma colonne un explorateur égaré. La semaine dernière, j'ai même entendu un crieur dans mon désert. Variante ascétique du pisseur dans un violon. Je ne serais pas étonné de voir passer un de ces jours un marchand de journaux. Ou une bande de publicitaires en séminaire de réflexion. J'ai malheureusement laissé tomber mes Ray-Ban. Je descends très bien les chercher, mais j'ai eu déjà trop de mal à monter. Elles me seraient pourtant bien utiles avec tous ces mirages. Cette lumière scintillante fatigue les yeux. Ici, même un afflelou serait flou. Bon, je suppose que toi, avec Simone, les enfants et les petits-enfants, tu es en Toscane comme tout le monde, ou dans les Pouilles, à moins que tu n'aies expédié ta famille dans le Puy-de-Dôme et que tu sois resté au journal pour tenter de prendre ma place. Valet, Simon Sinéon.
Bon, il est bien, il est tout seul. À mon avis, il est mieux tout seul qu'accompagné, de toute façon. Hein. Oui. Je ne vous vois pas dans les Pouilles. Il c'est le genre d'Hervé Le Tellier de louer une maison dans les Pouilles.
Il est trop lit. Milieu des troulis.
Enfin, j'aimerais bien de temps en temps me dégourdir les jambes. Mais...
Vous avez été exigeant en grimpant, maintenant.
Quelle hauteur fait la colonne, exactement?
Plusieurs pieds.
Patrick Meunier. Est-ce que vous êtes JDD?
Voilà, et je réponds à Siméon.
Bah, c'est logique.
Tout est simple.
Oui.
Cher Siméon, ton courriel m'a bien intéressé et un peu surpris tout de même. Je ne suis pas habitué à de pareilles délicatesses de ta part pendant les vacances. Notre inimitié vieille de 20 ans se passait bien jusqu'à présent de ce genre de choses. Alors pourquoi diable m'écris-tu ce courriel? Est-ce vraiment pour me signifier ta détestation du Larzac et des Bermudas à fleurs? Sont-ils vraiment plus moches que les Bermudas sans fleurs? Non, c'est pas une raison suffisante. Quelque chose sonnait étrangement dans ce message, outre le peu d'urgence de ce que tu me racontes. Il y a quelque chose de creux, une sorte de détachement impersonnel. Peu à peu, j'ai compris que ces vacances de stylite, c'était des fariboles, que tu n'étais pas parti, mais que tu te tairais dans ton appartement de la rue des Trois Méridiens. Par peur, apparemment, que, apprenant que tu étais là, je te demande d'écrire 2 ou 3 articles dont le journal a bien besoin. Tu auras recopié ces impressions du désert dans quelque article de Wikipédia ou autre, me disais-je. Pourtant, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est que je reconnaissais vaguement les phrases que tu m'écrivais.
Soudain, ça m'est revenu. Quand je suis allé dîner chez toi l'hiver dernier, j'ai été frappé de voir dans ta bibliothèque la grande encyclopédie des déserts, parue en 1948 aux éditions du Carousel. 3 volumes in quarto, 350 illustrations en quadricromie, avec une préface de Henri de Montfred. J'ai repéré ces volumes chez toi parce que j'ai les mêmes. Je suis allé chercher dans ma propre bibliothèque, j'ai feuilleté un peu et c'est venu. Dès la page 2 de la préface d'Henri de Montfred, je lis « On se croit tranquille dans le désert et bientôt surgissent au sommet des dunes, à l'entour des caravanes, des touristes à dos de chameaux. » Je feuillette encore, me voici au chapitre 4 de la première partie, « Ruines dans le désert » et je lis « Rien n'est plus facile que d'y trouver des colonnes. Les Grecs et les Romains, ces grands spécialistes des ruines, en ont laissé un peu partout. » Je poursuis ma lecture et j'arrive, page 225. Il y a beaucoup de monde dans le désert, des petits rongeurs, des scorpions, des serpents à sonnette, etc. Tu t'es pas foulé, en somme. ou tu n'as pas eu de chance, comme on veut. Mais ça me confirme dans mon idée, tu es chez toi, rue des Trois Méridiens. J'arrive. Et c'est signé JDD.
Vous êtes démasqué, Jacques Bertrand.
Et qui c'est ce Montfred?
Henri II.
Rodrigo et Gabriella Tamacoun.
Les pas poussés dans la tête sur France Culture.
Et oui, Violaine, et place aux classes de rhétorique. Pour tous ceux qui rêvent de prendre la parole en public mais ne maîtrisent pas encore l'exercice, quel que soit l'auditoire, 2, 3, 8 personnes ou une salle comble, c'est difficile. Alors il faut pratiquer à blanc pour être brillant le jour J et pratiquer sur tous les sujets imaginables. Aujourd'hui, Eva Almassi dans la peau de la discoureuse sur un sujet de saison et Clémentine Mélois pour lui répondre. Vous êtes qui Eva et nous dans la salle, qui sommes-nous?
Moi, je suis moi.
Eva Almassi elle-même.
Et vous êtes mes colocataires. Et c'est un discours de pacification et de désarmement bilatéral. Enfin, bilatéral, tri, quadro, enfin, je sais pas comment il faut compter parce qu'on est très nombreux.
Oui, d'accord. Et l'appartement est grand?
Oui. Bien distingué et hautement estimé, quoique parfois microscopique colloque, oyez, oyez du moins pour ceux d'entre vous qui avez des oreilles. Dès que mes paroles se seront tues, on cessera de nous entretuer. Vous entendez? Je vous propose l'armistice. Ô petit peuple affamé, assoiffé de sang, microcosme de ma maison, je vous ai compris. Que vous soyez araignée, que vous soyez fourmi, guêpe égarée, abeille perdue, mouche et moucheron, puce et puceron. Et vous, cochenille farineuse sur ma fougère et sur mon ficus, et vous, brave perce-oreille, entrez en ma demeure avec la dernière cueillette de framboise, vous êtes donc tous là réunis. Une pensée pour l'absente, la tique qui m'a quitté voilà un jour sous la douche, paix à son âme. Un tire-tique d'apothicaire a eu sa peau. De toute façon, la tique, sorte de Robin des Bois, n'a jamais vraiment participé à notre vie collective. Pas plus que le frelon qui naquit l'espace d'un jour d'été dans un pot de fleurs et pour lequel les pompiers furent requis. Vous en avez tout un nid, mais non un seul frelon. Madame, pour un frelon, on ne se déplace pas. Prenez un torchon, roulez-le et oublions, oublions. En ce jour solennel, place aux vivants. Contrairement aux élucubrations d'Antoine, tararararararara, oh yeah! Les élucubrations d'Antoine, dans Jules César, de Shakespeare, je cite. Je viens pour inhumer César, non pour le louer. Oh yeah! Moi, je viens réellement pour vous louer, puisque je vous loue même une partie de mes murs, mes sols, les plafonds et mes plaintes. ITH, moi je vous laisse la vedette. Ici c'est vous qui faites le buzz. Toi moustique d'abord. Zzz. Tu joues dans la comédie musicale de l'été. Tu enchantes mes nuits. Qui aurait l'ingratitude de dormir pendant que tu te produis sur la scène de ma peau nue? Et vous, mythe et termite, les mythes d'abord. Tout le monde vous applaudit.
Pardon.
Ce n'est pas pour vous flatter, mais jamais je n'oublierai la robe bleu ciel en laine légère de chez Georges Resse que vous avez transformée en dentelle. Il faudra un jour un nouveau Roland Barthes qui écrira vos antimythologies. Moi, j'ai le béguin pour vous, pas le bégon jaune ni vert. Pour vous, les termites, un nouveau Salinger écrira, dressé haut la poutre maîtresse charpentier. Grâce à vous, ma poutre n'est plus que poudre qui tombe en pluie fine sur le tapis. Et c'est là que vous êtes, vous, les invisibles. Ô modeste Zacharien, je vous salue. Atchoum, atchoum. Est-ce que vous, qui vous manifestez ad vitam aeternuam, ou bien est-ce parce que chez nous, on régale les termites d'huile essentielle d'orange, et que la maison offre aux mythes des boules de cèdre et des bouquets de lavande, et que l'on accueille les moustiques avec de la citronnelle et des fumigations bio, que très peu souvent, on effacera avec un plumeau grossier vos toiles de maître aux araignées du soir, du matin, de midi, véritable travail de fourmis. Et ce ne sont pas non plus les fourmis qui manquent, stendhaliens, car et rouge et noir. Papillon de nuit égaré, et puce qui naissait sur mon chaton, nous vivons ici en démocratie, tous à la même enseigne. Même enseigne, mais moi seul saigne. Quelle mouche vous pique de me piquer, de me mordre et de me manger jusqu'à la démangeaison la plus démente, que d'ailleurs je traite avec des feuilles fraîches de menthe. Pas d'armes chimiques, sauf les vôtres, ni même rien de contondant, pas de tapette. Je suis comme les brahmanes en Inde, d'une absolue non-violence. Je vous dirige gentiment vers un kleenex et vous parachute à travers la fenêtre, certes dans le vide. Mais quel dernier voyage avec une réelle chance de survie. Mon discours arrive à sa fin. Vous avez entendu à son début, je ne suis pas Antoine, oh yeah, plutôt Polnareff que Red ou Cabé. Au lieu de vous pulvériser, j'aimerais vous impulser des sentiments. Love me, psst, love me. Et maintenant, je vais passer la vapeur à 110 degrés partout. Et l'on n'en parle plus.
On va tous mourir, alors. Ah. Je vois une bestiole là-bas dans le coin.
Amis.
Clémentine Mélois qui veut parler.
Oui, non, je ne suis pas Clémentine Mélois.
Ah bon?
Mais non, je... Oh, je suis... C'est moi. C'est Thierry. Je suis la tique qui était tombée dans le coin de la douche samedi dernier.
Ah bon?
Je suis là, vous me voyez?
C'est Thierry la tique.
Oui.
Oh, Thierry Latique.
Je suis vraiment discrète. Je suis tombée derrière le lavabo et depuis, je compte les moutons de poussière pour passer le temps.
Merci.
Bah oui, je regarde les moisissures.
C'est pas propre chez vous, Eva. Merci.
Il y a des mythes, il y a des tiques, il y a des puces. Et puis... Non, je m'ennuie pas trop. Je regarde les moisissures. D'ailleurs, en parlant de Roland Barthes, c'est les mycologies qu'il aurait pu écrire depuis mon petit recoin humide s'il avait été à ma place. Enfin, en tout cas, d'ici, j'ai tout entendu du discours de la proprio. Quelle fauchetonne! Mais quelle fauchetonne! Quelle langue de bois insupportable! Si vous voulez mon avis, elle essaye de nous enfumer. Au sens premier du terme, je le crains. Elle fait semblant de nous flatter. Mais en fait, c'est pour mieux se débarrasser de nous. Cruel destin. Oh là 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 là. Nous aussi, on a un cœur. Nous aussi, nous ressentons, nous vivons. Une tique n'a-t-elle pas d'yeux? Une tique n'a-t-elle pas de pattes? Une tique n'a-t-elle pas de cœur? Non, bon, enfin, peu importe.
En tout cas, elle a de la culture. Heureusement, ça pèse pas une tête.
La pince.
Si vous nous arrachez à la pince, ne souffrons-nous pas? Si vous nous bombez au bégon, ne mourrons-nous pas?
C'est probable,
si,
oui.
Si vous nous bafouez, ne nous vengerons-nous pas? Ah, quelle amertume! Oh là 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 là! Nous voir menacés par celle-là même à qui nous donnions le nom de mère. Eva Almassi, prends pitié de nous, repens-toi! Ah mais, que se passe-t-il? L'univers s'obscurcit? Déjà, je ne vois plus. Adieu, vos vaches cochons, mythes, puces, frelons. Ah, ce papier peint disparaît, ou alors c'est moi.
Elle n'a pas dit adieu aux moutons, c'est dommage.
Ouais, non mais elle va leur tomber dessus, morte raide, et elle partira dans l'aspirateur.
J'ai fait de mon mieux.
Je suis une idée de fourmi. Je suis une idée d'être en vie. Je suis une virée de scarabée. Une petite virée en toute liberté. Et même si j'ai tort, je crache sur la mort. Je suis une idée. Papillon, je suis une idée sans prison. Je suis une pensée coccinelle. Une petite pensée, rien que pour elle. Et même si j'ai tort, je crache sur la mort. Oh, et même si j'ai sur la mort. Je suis une enfance de mouche. Je suis une violence qui pleure et qui louche. Je suis une pensée de migale. Trop sentimentale, j'en perds les pédales. Et même si j'ai tort, je crache sur la mort. Oh, et même si j'ai tort, je crache sur la mort.
Camille Bazbaz, vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressard et la bande des papous du jour. À suivre jusqu'à 13h59, quand un papou lit un autre papou, la lettre d'été de Jean-Bernard Puy à sa chérie, rôle tenu par Odile Conseil, et le DLA, un piège littéraire proposé par Eva Almassi aux experts Lucas Fournier, Jacques Vallée et Patrice Delpour. Alors, quand un papou lit un autre papou, dans la bande des papous, il y a des écrivains, des peintres, des chanteuses, des comédiens, un cinéaste, c'est Gérard Mordilla. Écrivain aussi, le Gérard est prolixe. Tous les matins, sur le coup de 6h, il s'assied à sa table de romancier jusqu'à 9h. Ensuite, un café et place à ses autres vies de militants, de cinéastes. Le week-end, c'est vélo, mais attention, pas à cyclotourisme, non. Gérard, il roule pour le plaisir de rouler, vite, longtemps, de tester son corps, souffrir peut-être, pas pour le paysage. Au papou, il est unique dans son genre. Lucas Fournier, vous avez lu un de ses livres de l'année, Hamlet, le vrai, paru chez Grasset. On vous écoute, Mordilla, sa vie, son œuvre.
Eh bien Françoise, il n'y a plus de mystère. En 20 ans, Gérard Mordilla aura apporté les réponses que l'humanité tout entière attendait depuis des siècles autour de trois questions existentielles. Qui a écrit le Nouveau Testament?
Ouais.
Qui a écrit le Coran? Et qui a écrit Hamlet? Alors, pour le Testament et le Coran, je vous renvoie aux nombreux ouvrages littéraires et cinématographiques déjà parus à la signature de Gérard Mordilla, Corpus Christi, l'origine du christianisme, Jésus contre Jésus, Jésus après Jésus, l'Apocalypse, Jésus et l'Islam. Vu le temps qui nous est imparti, je ne traiterai que de la question la plus compliquée. Il ne s'agit ni des Testaments, ni du Coran, mais bien sûr d'Hamlet.
Voilà.
Gérard Mordillat présente donc aux éditions Grasset un Hamlet, le vrai, qu'il aurait dû intituler le Da Hamlet Code, tant il y a de mystères, de grimoires secrets et de révélations saisissantes dans son petit livre. À l'occasion d'un débat tenu à Oxford sur la question paulienne dans l'épître aux Thessaloniciens, vous voyez qu'on n'est pas entre farceurs,
non.
Gérard Mordillat rencontre peu de temps avant sa mort Gérald Mortimer Smith, un exégète. On exégète beaucoup chez Mordillat, lequel Gérard Mortimer Smith, non content d'exégéter la Bible, a aussi exégété Shakespeare. Hamlet, c'est comme les évangiles, il y en a beaucoup. Une version 1603, une autre 1604, une en 1611 et encore une en 1623. Il paraît que tout le monde le savait. Moi pas.
Hein. Non, moi non plus.
Ah ben merci.
Nous sommes deux.
Alors il ressort aussi, mais ça on le savait, que Shakespeare n'avait jamais écrit Hamlet. Moi je m'en doutais un peu. Autant on voit bien Shakespeare écrire Macbeth, autant Hamlet non. Hein. C'est un certain Thomas Kyd, l'auteur de la tragédie espagnole, qui a tenu la plume, voyons.
Merci, merci. Voilà.
Selon Gérard, il existe ou il existerait avant qu'elle ne disparaisse mystérieusement dans les flammes. Oui, on se croirait dans Au nom de la rose. Il existerait une vraie version de Hamlet. C'est cette version que Gérard Mordillat nous livre, traduite et reconstituée par lui.
Voilà, Hamlet, le vrai.
Le vrai. Et là, c'est un choc. Hamlet n'est pas du tout celui que vous croyez, mais alors pas du tout, du tout. On est loin, Françoise, de Laurence Olivier. Pourtant, il y a toute l'histoire et tous les personnages. Mais il y a là-dedans des secrets de famille qui feraient passer les films de Lars von Trier pour des récits de la Bibliothèque verte, ou plutôt rose d'ailleurs, je n'en dis pas plus. Enfin si, on ne fait pas d'Hamlet sans casser des Oedipes. Quand on referme le livre qui contient et le manuscrit inédit d'Hamlet, et le récit de la découverte et de la reconstitution de ce manuscrit, on se pose la question essentielle. Hamlet le vrai est-il un faux ?
Ah.
To be or not to be a fake, comme disent les internautes. Est-ce un faux habile et sympathique ou faut-il tout croire ? Alors, côté to be a fake, trois indices puissants. Un, l'ouvrage est dédié à Nicolas Bataille. Alors, il existe deux Nicolas Bataille, vous le savez, hein, vous les connaissez. Alors, l'un.
Ne m'agressez pas, Lucas Fournier.
L'un est le célèbre tapissier qui a fourni au roi de France Charles V la tenture de l'Apocalypse. Ouais. C'était en 1380.
Ouais.
Déjà l'Apocalypse. L'autre, un comédien et metteur en scène qui fit publier en 1949 un vrai faux Arthur Rimbaud. Tiens, tiens, un faussaire. Deuxième indice pour le fake. Il y a dans cet Hamlet retrouvé, entre Albertine et Hamlet, il existe aussi des choses en commun, mais glissons. Donc, dans cette Hamlet retrouvée, on trouve des clins d'œil littéraires qui empruntent à Rimbaud. C'est un coin de verdure où chante une rivière. À moins que Rimbaud ait pu lire le manuscrit de Shakespeare et qu'il ait lui-même fait cet emprunt.
Bon. Question, oui.
On trouve aussi « Mets un sourire dans ta voix », votre phrase culte, Françoise.
Oui.
Dans la bouche de la reine.
Ah, mon Dieu.
Est-ce que vous auriez une relation personnelle avec Shakespeare ?
Eh bien, je voulais la cacher jusqu'à présent, mais voilà, elle est découverte.
C'est troublant. Et enfin, parce que les personnages sont très Bible-oriented.
Oui.
Par exemple, Hamlet parle ainsi. « Horatio, fils de Simon, m'aimes-tu ?» Ça, c'est du pur Mordillat. Mm. Alors, l'ennui est que le traducteur et adaptateur du texte, c'est Mordillat lui-même. Et qu'on le reconnaisse sous le texte shakespearien n'a rien d'étonnant. Maintenant, on peut penser que le texte Hamlet le vrai, comme son nom l'indique, n'est pas un faux. Et là, il y a trois indices puissants. D'abord, le faussaire absolu, c'est celui qui transforme un vrai en faux. Et Gérard est capable d'avoir voulu nous égarer deux fois, prendre un texte authentique, le travestir, pour nous faire croire à sa véracité. Les masques, il adore ça, lisez donc son avant-dernier opus, La Brigade du Rire. Deuxièmement, l'érudition, les citations empruntées au texte officiel d'Hamlet, mises bout à bout et réinterprétées, sont saisissantes. Nobody's perfect et surtout pas Hamlet. Mais après avoir entendu la démonstration de Mordillat, on ne peut plus lire Shakespeare de la même façon. Enfin, je l'ai dit, les types qui sont au chevet de l'œuvre et qui sont cités et référencés appartiennent à ce qui se fait de mieux, de plus sérieux dans la shakespeareologie moderne et ancienne. Et on ne les voit pas du tout s'embarquer dans une blague littéraire façon Émile Ajar. Alors le débat fait rage à l'université et à Stratford-upon-Avon. To be or not to be sure, lisez ce Shakespeare. De toute façon, c'est très rigolo, très érudit et très très inattendu.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was
was younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being wrong. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in a haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I never have done before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being wrong. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me?
La grande Cathy Berberian. Retour aux lettres de vacances avec Jean-Bernard Pouy et Odile Conseil. Jean-Bernard Pouy, alias Bernard, est ailleurs pour se retrouver, se ressourcer, comme on dit. C'est un être délicat, il pense à celle qu'il a laissée et lui écrit.
Ma chérie, merci. Merci encore de m'avoir permis de passer ce mois de vacances qui s'annonce, après déjà une semaine, comme merveilleux. En effet, j'en avais assez, des destinations exotiques et tropicales, des trekking en Mongolie intérieure et extérieure. J'en ai eu également assez de tous ces proches qui vous reprochent implicitement d'arpenter les monts lointains alors que vous ne connaissez pas le coin de votre rue, ni ces êtres étonnants que vous croisez dans l'escalier. C'est pourquoi je te remercie encore de m'avoir permis de passer les premiers 15 jours de mes vacances dans un lieu qui m'était pratiquement inconnu, notre vieux grenier, et ensuite de terminer ces mêmes vacances dans un endroit où je crois je ne suis jamais allé, c'est-à-dire notre cave.
Ah bon? Ah oui, mais c'est parce qu'elle vous a enfermé à double tour
pas
avant
du tout,
de partir?
Non, non, c'est non. Tout à fait volontaire.
Ah oui?
Pour t'écrire et te tenir au courant de ma vie de tous les jours, c'est simple. Je dépose les lettres dans notre boîte du rez-de-chaussée. C'est facile et pas cher. Plus besoin de poste, plus besoin de timbre. Bien sûr, je te raconterai tout par le menu à mon retour, maintenant, dans un peu plus de 20 jours. Mais je peux dès maintenant te rassurer et te confier certains détails. J'ai tout trouvé sur place. Notamment le vieux lit en fer forgé de mon enfance. Certes un peu petit, mais ça ne me gêne pas de dormir en chien de fusil. C'est même plus confortable que les hamacs que nous avions pour traverser le Rondônia au Brésil, il y a 2 ans. J'ai un peu fait le ménage, surtout la poussière, mais pas trop. Je n'ai pas envie de vivre dans un nuage aussi épais que la tempête de sable. T'en souviens-tu que nous avions traversé du côté de Ouarzazate? Tu avais même dit « Ouarzazate et mourir ». Dans des malles antiques, j'ai même trouvé quelques étoffes dont j'ai fait ma paillasse et des vieux vêtements sans doute appartenant à ta grand-mère dont je me pars. Je me fiche de l'effet fourni, personne ne me voit et je ne sors pas. Les provisions que j'ai emmenées me seront suffisantes jusqu'à mon départ à la cave, où je crois il y a quelques bouteilles qui m'aideront à affronter l'obscurité et l'humidité, sans parler d'un stock de boîtes de sardines dont certaines ne seront peut-être pas périmées. Ici, au grenier, sous le toit, il fait très chaud et je vis pratiquement à poil, comme nous l'avions fait l'année dernière en Namibie. Sauf qu'ici, il n'y a pas de moustiques. Que des araignées. Heureusement, je ne suis pas phobique. Même les migales de Fortaleza ne m'avaient pas fait hérisser les poils du bras. Alors, évidemment, j'en écrase quelques-unes quand elles s'aventurent trop près de mon oreiller, un vieux sac de sport datant de mes années judo. Le seul ennui, c'est un loir. Enfin, je crois, car il ne sort que la nuit, qui a jeté son dévolu sur une caisse remplie de vieux bouquins et fascicules ayant appartenu à mon oncle. Il a fait un massacre dans cette manne, sans doute pour équiper son nid, mais j'ai réussi à sauver quelques exemplaires qui peut-être valent aujourd'hui des fortunes. Dont, dans la collection Ferrexi, Le tunnel de l'épouvante de Emma Dazergue, Au pays des hommes serpents de Joe Golden et Le cancre en sait trop d'Hans Black. Du coup, le soir, à la lueur de la lune passant par le vasistas, j'ai de la lecture. Comme dans la forêt de Bornéo dans laquelle nous avions il y a 4 ans traqué le tatou, je me suis donné comme mission d'essayer de l'attraper. Ce loir, littérature-ophage, c'est pas très écolo, certes, mais c'est la survie de la mémoire qui est en jeu. J'ai retrouvé aussi plusieurs boîtes de chocolat remplies de lettres, entourées de rubans colorés, dont certaines te sont adressées, et émanent d'un certain Victor, dont j'apprends l'existence. Je ne les ai pas ouvertes, mon amour, tu en feras ce que tu voudras, si un jour tu parviens à faire le voyage jusqu'au grenier. Voilà, bientôt je t'écrirai de la cave. Tout sera sans doute très différent, peut-être similaire à notre trekking au Kamtchatka, où en 2 jours nous sommes passés de moins 30 à plus 40. Mais je suis en pleine forme et j'attends le choc. Bref, on se revoit bientôt et bonne nouvelle, tu n'auras pas besoin de venir me chercher à l'aéroport. Je t'aime et je t'embrasse.
C'est tendre. Hein. Ah, on sent qu'il y avait quand même besoin d'une petite coupure avec l'être aimé.
Ça, c'est vous qui le dites.
Hein, non, vous ne trouvez pas, Odile ? Claro, non, c'est une belle expérience, savoir si on va résister, si on va pouvoir tenir sans l'autre. Ou...
voir y prendre goût.
Éventuellement. Odile conseille. La chérie ?
C'est moi.
La chérie de Bernard, Jean-Bernard, oui. Alors, éclaircissez un peu la situation.
Je ne suis pas absolument sûre de l'éclaircir, mais je vais apporter une nouvelle lumière.
Oui, vous lui écrivez.
Bien sûr,
et j'écris. Vous mettez aussi dans la boîte aux lettres en bas.
J'écris à Bernard, mon amour. Oui. Bernard, mon amour, je ne sais pas quel est l'imbécile qui a dit « loin des yeux, loin du cœur ». Sans doute un homme qui voulait empêcher sa femme de partir en vacances avec ses copines, risquant ainsi de perdre tout à la fois sa cuisinière, sa couturière et sa bouillotte. Fieffé imbécile que celui-là. Tu es loin de mes yeux, mais tu n'as jamais été si près de mon cœur. Plus près que lorsque nous étions blottis l'un contre l'autre, sous un fragile toit de branchages pour échapper aux pluies diluviennes, c'était au Congo, je crois. Plus près que lorsque nous avons franchi le cours d'un tumultueux torrent qui se fracassait 300 mètres plus bas, accrochés ensemble à la même liane. Où était-ce déjà, au Pérou ou au Népal? Plus près même que lors de notre première virée en moto il y a... oh là là, il y a 30 ans au moins, quand nous avons traversé le Mexique, je me serrais, me blottissais contre toi à l'arrière de la moto. Et cette nuit magnifique dans le désert du Chihuahua. Le désert du Chihuahua, c'est un tout petit désert.
Hein,
ah bon ?
Qu'on peut prendre dans ses bras. Oui.
Tu te rappelles ? Cela fait 12 jours à présent que nous ne sommes vus. 12 jours pendant lesquels je me suis sentie plus près de toi qu'au cours de ces derniers mois. Alors, j'ai eu une idée. Pour être encore plus proche de toi, pour t'aimer encore plus, je vais partir. Je sens que mon amour, que notre amour, croîtra de façon proportionnelle à la distance qui nous séparera. Désormais, mon slogan, notre slogan sera « Toujours plus loin des yeux, toujours plus près du cœur ». J'avais pensé aller au Spitzberg. C'est ce que me propose Victor, un vieil ami. Mais je crains que la puissance de mon amour pour toi, dans un endroit si éloigné, que ma passion torride ne contribue à faire fondre la banquise et n'aggrave la montée des océans. Je pense que nous irons donc dans un quelconque endroit ensoleillé et lointain, où la chaleur de mes sentiments se diluera dans la température ambiante. Moi seul serai mon amour, et tu ressentiras, j'espère, au fond de la cave, à quel point et avec quelle force je pense à toi. Je t'embrasse de tout mon cœur, Bianca. Postscriptum, en parlant de la cave, je crains qu'il n'y reste plus de bouteilles. J'ai reçu pas mal d'amis ces jours derniers, tu connais la chanson, une bouteille en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. Et un deuxième postscriptum, le tatou, ce n'était pas dans la forêt de Bornéo, mais dans la pampa argentine.
Ah, oh, il c'est avait gentil, confondu. Hein, oui.
C'est spécial pour les lecteurs de Pouy, ça.
Je crois que c'est vraiment fini entre vous. Hein.
Pas du tout.
Pas du tout. Ah non.
J'ai pas dit mon dernier mot.
Ah bon, qu'est-ce que vous allez faire?
Je sais pas, je vais l'emmener à Massy Palaiseau.
L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. L'amour. je t'aime, si je t'aime.
Une version de la Banera par les Brigitte. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête, le DLA. Un petit bout de littérature pioché à la bibliothèque de son quartier par Eva Almassy. Eva la joueuse, Eva la piégeuse. Et soumis ce petit bout de littérature anonymement à la perspicacité de trois experts, Lucas Fournier, Jacques Vallée et Patrice Delbourg. Fin limier, tous les trois cultivés, ô combien. Parviendront-ils à trouver l'auteur de l'extrait littéraire en décortiquant les mots choisis, le style, en déterminant l'époque, la langue d'écriture, bref, en réfléchissant et sans avoir peur de dire des bêtises, ça arrive, c'est le jeu, il faut oser. En seconde chance, Eva Almassy leur donnera le choix entre trois écrivains. Eva Almassy lit et nous, on l'écoute.
Elle était bonne dans une taverne d'Hoffmann, mais une miteuse crapuleuse bonniche, une bonniche crapuleuse et mal lavée. Elle passait les plats, vidait les lieux, faisait les lits, balayait les chambres, secouait les ciels de lit et se déshabillait devant sa lucarne, comme toutes les bonnes de tous les contes d'Hoffmann. Je couchais à l'époque dans un lit piteux, dont le matelas se dressait toutes les nuits, se recroquevillait devant cette avance de rats que dégorgent les reflux des mauvais rêves et qui s'aplanissaient au soleil levant. Mes draps sentaient le tabac et la morgue et cette odeur nauséeuse et délicieuse que revêtent nos corps quand nous nous appliquons à les sentir. Bref, c'était de vrais draps d'étudiants amoureux. Je piochais une thèse épaisse, annonante, sur les avortements de l'esprit humain à ces seuils épuisés de l'âme jusqu'où l'esprit de l'homme n'atteint pas. Mais l'idée de la boniche me travaillait beaucoup plus que tous les fantasmes du nominalisme excessif des choses. Je la voyais à travers le ciel, à travers les vitres fendues de ma chambre, à travers ses propres sourcils, à travers les yeux de toutes mes anciennes maîtresses et à travers les cheveux jaunes de ma mère. Or, nous étions à la nuit de la Saint-Sylvestre. Le tonnerre tonnait, les éclairs marchaient, la pluie faisait son chemin, les cocons des rêves bêlaient, les grenouilles de tous les étangs coassaient. Bref, la nuit faisait son métier.
C'est joli ça, la nuit faisait son métier.
Le texte est sauvé in extremis de l'engourdissement par ces trois derniers mots. Sinon, le reste est confondant.
Bah, le reste, c'est riche en vocabulaire quand même.
Mais la chute est très belle.
Quand j'étais étudiant et que j'apprenais l'allemand, et je faisais des traductions, des versions allemand en français. Quand je ne comprenais pas, je faisais une traduction à peu près mot à mot, ce qui donnait cette phrase, par exemple, je piochais une thèse épaisse annonante sur les avortements de l'esprit humain à ses seuils épuisés de l'âme jusqu'où l'esprit de l'homme n'atteint pas.
Oui.
Ce qui est correct grammaticalement, mais qui est absolument inintelligible.
Ouais.
Voilà. Les fantasmes du nominalisme excessif
ça,
des choses.
Ça, c'est rude.
Là aussi,
le nominalisme
c'est grammaticalement correct, mais...
Mais c'est dramatiquement...
Qu'est-ce que ça veut dire, oui.
Oui, donc il faudrait retraduire ce texte.
C'est rare qu'un texte heurte l'œil comme ça si souvent.
L'œil et pas et que l'oreille, vous voulez dire.
J'ai l'impression que c'est traduit du morse.
Ah oui, espoir. Et votre impression, Jacques Vallée, vous êtes d'accord avec tous les deux ?
Un peu, sauf que la dernière phrase sauve complètement le texte. La nuit fait son métier, c'est formidable. Mais effectivement, une miteuse, crapuleuse, un lit piteux, c'est quand même un peu surligné, je dirais. Ça peut être une traduction, parce que je ne pense pas que ce soit l'auteur qui a amené cette lourdeur. Mais ce qu'il y a, cette traduction, elle a été... influencé par ce côté misérabilisme.
Oui, parce qu'il y a des très bons traducteurs qui traduisent formidablement.
Oui.
Donc on peut penser que c'est la traduction d'un original quand même.
Oui, oui.
Ou alors c'est un texte transnistrien, par exemple. Il y a un seul traducteur de transnistrien français, donc qui a moins de qualité que d'autres.
Il a beaucoup de travail, donc. Donc vous optez tous les trois pour l'hypothèse traduction.
Ah oui, c'est vraiment trop à la truelle pour que ça soit directement un texte français. Ou alors c'est quelqu'un qui a fait un bon repas, qui est dans une situation un peu giboyeuse, qui somnole. Non, je pense que c'est une traduction.
De quelle langue ?
Le teuton, le germain.
L'allemand.
Oui.
Vous avez un indice pour ça ?
Non, mais c'est non, vous non. qui l'avez influencé oui, avec influencé, vos traductions mais... non, à l'école.
Parce que j'ai vu la taverne d'Hoffmann tout de suite.
Ah, non, non, oui, mais c'est-à-dire que ce qu'on peut dire, ça a été écrit après Hoffmann. Mais Hoffmann, c'est le 18e.
Mais ce n'est pas nécessairement le fabuliste.
Non, c'est peut-être la ville d'Hoffmann.
Oui.
Ou l'avancante de Dresde.
Ah bon?
Ah non, c'est parce que les contes d'Hoffmann, c'est bien oui, cité. Il ne faut pas exagérer
non,
quand même.
Mais il chicane, il plaisante.
Je chicote.
Il sait bien que vous ne jouez pas au foot de toute façon. Alors, bon, hypothèse, traduction de l'allemand pour Patrice Delbourg, pour vous, Lucas.
Ah oui, de l'allemand aussi.
Ah oui, et Jacques Vallée. Oui,
je ne peux pas savoir, ça peut être de l'autrichien, non, tonnerre, ça peut être, ça du, peut tchèque, être du tchèque, ça peut centrale. Être du hongrois. Ça peut être.
Ah, on est soit dans,
soit dans l'Empire austro-hongrois.
Ça peut être slave. Et ouais. puis ça peut aller jusqu'à l'Italie aussi, pourquoi pas.
Ah oui, l'Italie du Nord, bien sûr. Oui, oui, oui tout
oui,
à fait.
Bien sûr, oui, bien
donc,
sûr.
C'est un peu Liechtenstein. En sens, c'est un peu le poids de
cette. La Slovénie, on voit bien, quoi.
On a à peu près la langue d'écriture. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de l'époque d'écriture, Patrice?
Alors, oui, époque romantique. Romantique rhénane.
Oui.
Donc 1862-1895 à peu près.
Voilà. Et ça se passe dans un sanatorium?
Non, ah non, non là ça ne se passe pas dans un sanatorium. Bon, ça se passe dans un pays un peu glaiseux, avec un moulin et une morgue. Mais alors ça n'incite pas à connaître ni ce qui se passe avant, ni ce qui se passe après. C'est terrible. Par exemple, la première phrase, regardez la première phrase. Elle était bonne. Déjà, bon, ça peut prêter à sourire. Elle était bonne.
Non, oui, c'est non. Son métier. Ça ne veut pas dire.
Oui,
mais. C'est pas bonne dans le sens.
J'entends, mais enfin, on peut mettre toujours les rieurs de son côté.
Oui.
Dans une taverne d'Hoffmann, mais une miteuse crapuleuse boniche.
Oui, j'ai beaucoup insisté.
Une boniche crapuleuse et mal lavée.
Oui.
Elle passait les plats, puis ensuite, on a une série scolaire d'énumération de faits et gestes
ouais.
qui laisse entendre quand même que c'est à la limite du travail littéraire.
Ouais.
Ah oui.
C'est vrai qu'il y a des répétitions
ah enfin, oui.
qui sont voulues, hein, c'est pas un hasard.
Vous avez bien recopié, Evan
à la virgule près.
Jacques bon. Vallée, l'époque. Vous êtes d'accord avec Patrice Delbourg?
19e siècle, je dirais.
Oui, lui aussi. Oui.
19e, peut-être même un peu plus tôt.
Lui, il a dit 1862, il était extrêmement précis.
Mais je n'ai pas une horloge comme lui, littéraire dans la tête, mais ça pourrait même être un peu avant, parce qu'il y a des écrivains germaniques qui ont influencé un peu toute la littérature française et qui décrivent un peu ces atmosphères. Ces...
Et pour vous, Lucas Fournier?
Je partage l'avis de mes camarades et on est tout à fait dans un récit qu'on a tous lu déjà, c'est-à-dire l'étudiant en médecine, alors peut-être qu'il étudie en psychiatrie ou en psychologie,
c'est un philosophe, là,
quelque chose comme ça, ou en philosophie, bon, qui a eu une vie un peu triste et il va se passer quelque chose puisqu'on est la nuit de la Saint-Sylvestre. Donc on n'imagine pas que le récit tienne pendant 250 pages comme ça.
Alors justement, voilà. Ça donc, appartient à quoi?
Je vois bien un petit recueil de contes ou de nouvelles, vaguement licencieuses peut-être, puisque c'est suggéré. Bah si, comme à travers... il précise tout de suite qu'il a eu ses anciennes maîtresses, donc il a un tableau de chasse, et puis il a déjà repéré sa perdrix rouge, dont il fera le dîner de la Saint-Sylvestre. Il allait se passer quelque chose, quoi.
Mais ce ne sont pas des contes pour les enfants, donc pas du tout.
C'est
hein.
un érotisme assez feutré, quand même.
Oh, les draps d'étudiants amoureux, malgré tout.
Bah, tous les draps d'étudiants sont souvent un peu roides.
Vous voulez bien nourrir ça, Eval Massy?
Elle était bonne dans une taverne d'Hoffmann, mais une miteuse, crapuleuse boniche. Une boniche crapuleuse et mal lavée. Elle passait les plats, vidait les lieux, faisait les lits, balayait les chambres, secouait les ciels de lit et se déshabillait devant sa lucarne, comme toutes les bonnes de tous les contes d'Hoffmann. Je couchais à l'époque dans un lit piteux dont le matelas se dressait toutes les nuits, se recroquevillait devant cette avance de rats que dégorgent les reflux des mauvais rêves et qui s'aplanissait au soleil levant. Mes draps sentaient le tabac et la morgue et cette odeur nauséeuse et délicieuse que revêtent nos corps quand nous nous appliquons à les sentir. Bref, c'était de vrais draps d'étudiants amoureux. Je piochais une thèse épaisse, annonante, sur les avortements de l'esprit humain à ces seuils épuisés de l'âme jusqu'où l'esprit de l'homme n'atteint pas. Mais l'idée de la boniche me travaillait beaucoup plus que tous les fantasmes du nominalisme excessif des choses. Je la voyais à travers le ciel, à travers les vitres fendues de ma chambre, à travers ses propres sourcils, à travers les yeux de toutes mes anciennes maîtresses et à travers les cheveux jaunes de ma mère. Or, nous étions à la nuit de la Saint-Sylvestre. Le tonnerre tonnait, les éclairs marchaient, la pluie faisait son chemin, les cocons des rêves bêlaient, les grenouilles de tous les étangs coassaient, bref, la nuit faisait son métier.
C'est une œuvre de jeunesse, vous pensez, Patrice Delbourg, de quelqu'un qui après a opté pour un autre style, peut-être.
Pour un autre métier.
Pour un autre métier.
Non, je pense que c'est la traduction, je pense que c'est un auteur très estimable. Non, je pense pas que ça soit une œuvre de jeunesse, mais je pense que l'auteur est mort jeune. Comme beaucoup d'auteurs de contes dans les années romantiques, hein, comme les frères Grimm, comme Hoffmann lui-même, c'est pas quelqu'un qui a vécu très longtemps. Et ça doit faire partie d'un recueil de contes de sa maturité. C'est-à-dire, je sais pas, il pouvait avoir peut-être 35, 40 ans.
Il est mort de la phtisie.
Oui, il est peut-être mort d'une phtisie galopante ou peut-être de quelques œdèmes de abdominal ou de quink, oh, ou peut-être d'un transport cérébral.
C'est la nuit de la Saint-Sylvestre peut-être, quand même. Non.
Peut-être d'un petit chaud-froid.
Oh, soyez un peu plus joyeux.
Pris, je vous livre son identité, si je vous dis comment il est mort.
On peut penser que le personnage se fait assassiner, peut-être, la nuit de la Saint-Sylvestre,
oui, mais là,
non?
Peut-être. À ce moment-là, ça aurait un côté russe. C'est un côté...
Ah, mais moi, j'ai rien contre les Russes.
Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un écrivain qui peut être assez touché au fantastique.
Oui.
Parce que, par exemple, il y a une phrase quand même très étonnante, c'est « Je la voyais à travers le ciel, à travers les vitres fendues de ma chambre, à travers ses propres sourcils. » C'est, ça se rapporte sans doute à la boniche.
C-S-E-S.
Oui, ça c'est quand même très étonnant, ce « c'est ». À travers les yeux de toutes
mes... C'est les sourcils qui sont étonnants.
Oui, à travers les yeux de toutes mes anciennes maîtresses et à travers les cheveux jaunes de ma mère. Et là, il y a quelque chose d'assez fantastique.
On dirait une chanson de Michel Sardou, oui.
Le rire du sergent.
Non, c'est pas possible.
Ça raconte quoi, cette petite nouvelle en dehors de cet extrait?
Mais c'est peut-être un vieux monsieur ou un homme mûr qui raconte sa jeunesse glorieuse et passée, parce qu'il le fait quand même avec un petit détachement.
Enfin, c'est pas très glorieux non plus.
Non,
ça,
mais
hein,
elle se déshabillait devant sa lucarne, comme toutes les bonnes de tous les contes d'Hoffmann. Donc, on a l'impression qu'il s'installe dans un petit récit et il le fait avec une forme de bonhomie, quoi.
Comme Jean d'Ormesson, oui. Bref, c'était le faire.
Bref, c'était de vrais draps d'étudiants amoureux. Absolument, c'est une très bonne idée, Jean d'Ormesson. Et puis alors, d'ailleurs, Jean d'Ormesson écrit fantasme, PH, comme il est écrit dans le texte qui nous est soumis. Alors qu'aujourd'hui, on a laissé tomber le PH pour bref. Donc ce qui est un signe, effectivement.
Il n'y a plus que Michel Onfray d'Ormesson pour mettre PH.
Ah
oui.
Vous voyez, je vous ai donné une fulgurante idée.
Et le tonnerre tonnait, il aurait peut-être pu l'écrire aussi. Je ne sais pas.
Qu'est-ce qui se passe d'autre alors? Il va tomber amoureux de la petite bonne, Jacques?
Non, je pense qu'il va passer son examen, il sera un notable. C'est un examen de philosophie ou de droit, et il va avoir son diplôme. Et on ne sent pas qu'il soit vraiment amoureux de cette petite bonne, parce qu'il la décrit tellement crapuleuse, mal lavée, que même s'il a un peu de sentiments, je pense qu'il n'écrirait pas ça. Et enfin, il la verrait autrement, même si c'est une pauvre petite bonne dans sa chambre de bonne, ça peut être très beau, c'est une déesse. Et là, lui, j'ai pas l'impression qu'il la considère à cette époque comme une déesse. Mais peut-être qu'il va la retrouver à un moment durement, dans le chapitre 4 ou 5, et elle sera transformée.
Ma question, à vrai dire, c'était, est-ce que cette petite bonne est un personnage important dans l'histoire, ou elle est juste anecdotique?
Non, elle est anecdotique.
Ça pourrait presque être le début du récit, d'ailleurs. Le récit commencerait par ça, elle était bonne.
Ah oui,
il va quand même
c'est un beau début, dans une taverne
d'Hoffmann, et c'est un petit conte, et il va se passer quelque chose, parce que c'est la nuit de la Saint-Sylvestre, donc on attend bien que quelque chose
se passe,
surgisse.
Hein. On aimerait que
quelqu'un va rentrer dans la chambre qui sera pas la petite bonne, sans doute pas. Ça sera un hussard, je ne sais pas, descendu du toit. Enfin, il va se passer quelque chose.
Vous grimacez, Patrice Delbourg. Pas d'accord avec Lucas?
Non, je crois qu'il ne va pas se passer grand-chose. C'est un récit comportementaliste sur la vie misérable de cet étudiant, comme ça, avec le tabac refroidi, la vieille à l'aise, les doigts bleuis, les murs cloqués de salpêtre. Là. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Il souffre et par là même, il exprime son enfance. Et, bon, il parle de sa mère.
Sa maman.
Il parle de sa maman. Et là, bon, il y a un auteur qui a eu des gros problèmes avec sa maman, qui a été boniche, justement.
Sa maman.
Avant d'être prostituée. Oui. Donc, on pense quand même à cette odeur-là.
À ce moment-là, c'est du Freud. C'est,
voilà. C'est du huissement. C'est du la nuit du 31.
On est entre, effectivement, huissement, et puis l'auteur auquel je pense.
Oui. Oui, voilà.
Bon, quelque chose à ajouter avant de donner des noms, Patrice Delbourg.
Alors donc, résumons-nous, c'est un conte. Oui. Un conte fantastique de quelqu'un qui est né après Hoffmann. Hein. Et Hoffmann, c'est 18e, oui. Fin 18e. Oui. Oui. Donc, ça serait quelqu'un de début 19e, de l'Europe de l'Est, mais pas de l'Allemagne, et qui serait pourquoi pas du Danemark, et qui pourrait être Andersen, Hans Christian Andersen.
Ah oui.
Dont la mère a été prostituée bonne, il a passé toute sa vie à essayer de la retrouver, de la récupérer, et dans ses contes, ça filtre, ça suinte.
Il n'a pas plutôt écrit pour les enfants? Non, il y a des contes pour les adultes.
Il y a des textes qui sont durs chez Andersen.
Ah oui.
Il
n'y
a pas que la petite sirène et la petite fille aux allumettes.
Aux allumettes.
Non.
Moi, ça se passe la nuit de Noël, pas la nuit de la Saint-Sylvestre.
C'est très dur, la petite fille aux allumettes.
Mais oui, hein,
c'est épouvantable.
Oui.
Voilà.
Jacques Vallée, votre idée?
Je pense que ça peut être un conte aussi, et je dirais Grimm.
Oui.
Les frères.
Les frères, les deux Grimm.
Il a droit à deux noms alors.
Et pour vous, Lucas Fournier.
On a parlé d'Allemagne, mais peut-être qu'à l'est de l'Allemagne, il y a un grand pays avec des grands auteurs. Et il me semble que Tolstoï a écrit des contes un peu comme ça, qui se passent au moment des fêtes de fin d'année. Donc,
pourquoi pas.
Oui, moi j'ai mis dans ma liste, je sais comme...
Oui, vous avez mis Tolstoï aussi.
J'ai mis Dostoïevski.
Dostoïevski. Ah, oui. Bon, écoutez, Eva Almassi, on vous propose un Andersen pour Patrice Delbourg, un frère Grimm pour Jacques Vallée et un Léon Tolstoï pour Lucas Fournier. Alors, est-ce que vous avez dans votre liste de 3, 1, 2, ces noms?
Non. Ah. Je n'ai même aucun étranger.
Ah, que des Français.
J'ai que des Français, mais il y a eu un nom prononcé qui est dans ma liste.
Ah bon? Lequel? Dites-nous ça.
Ben, je donne par ordre alphabétique, plutôt. Aragon, Artaud ou Huysmans.
Ben oui.
Aragon, Artaud, Huysmans. Alors effectivement, Lucas a prononcé le nom de Huysmans, qui a été relayé par Patrice Delbourg tout de suite après.
Et moi, je l'avais écrit sur ma liste.
Alors, Aragon, Artaud, Huysmans, ça vaut le coup de réfléchir.
On n'est pas en Allemagne.
Oui. C'est un maître de prose, Huysmans. Impossible, ou alors c'est pervers, ou alors c'était cherché dans un texte qui n'a pas été relu ou pas.
Il écrit comme ça, Huysmans?
Jamais.
Non.
À jamais.
Il écrit magnifiquement.
Et non.
Il écrit comme Patrice Delbourg.
Oui, sauf qu'il a des romans réalistes.
Un peu plus relâché.
Les premiers romans de Huysmans sont très réalistes.
Alors, Aragon, Artaud, Huysmans, qu'est-ce que vous pensez d'Aragon là-dessus?
Je ne pense pas.
Vous ne pensez pas?
Non.
Lucas Fournier.
Là, le côté crapuleux, ça lui aurait peut-être plu hein, quand même, à Aragon.
Le jeune Aragon, alors.
Oui, le jeune Aragon.
Avec la petite
boniche. Non, oui. Le jeune Aragon.
Le très jeune Aragon. Mmh.
Mais les avortements de l'esprit humain, ces seuils épuisés de l'âme jusqu'où l'esprit de l'homme n'atteint pas, c'est un esprit plus travaillé peut-être que celui d'Aragon. Donc des trois, il y en a un qui était peut-être plus perturbé.
Serait lequel donc?
Ça serait Antonin.
Était assez perturbé.
Antonin Artaud.
Oui.
Très perturbé, oui.
C'est pas facile, hein, j'ai l'impression.
C'est très évident, Artaud, donc ça ne doit pas être lui. Mais...
Le nominalisme excessif des choses, oui, c'est ça.
C'est Artaud.
Oui, parce que...
Je ne vois pas Huysmans parler du nominalisme.
Non, et puis Aragon non plus. Il a fait des proses, Artaud. Les Tarahumaras, mais Sensi, mais enfin, je ne sais pas ça.
Aragon n'aurait pas pu écrire à travers les cheveux jaunes de ma mère parce qu'il ne connaissait pas sa mère. C'est un orphelin de père et de mère.
Oui.
Mais aucun des trois n'est écrit comme ça, c'est ça qui est fort.
Il va falloir dire un nom. Hein.
Antonin Artaud.
Antonin Artaud pour Patrice Delbourg. C'est un peu par défaut ou quand même c'est celui qui ressort des trois?
Huysmans, c'est un peu impossible. Et Aragon, quand même, a une prose assez, assez ronde et assez, assez luxueuse.
Oui. Jacques Vallée.
Antonin Artaud, parce que c'est le plus délirant, et surtout à cause de ce... Je piochais une thèse épaisse, anonnante, sur les avortements de l'esprit. Ah oui. C'est presque son portrait. Mmh. Il parle de lui, presque, là. Donc ça pourrait.
Alors, on a deux Artaud, et pour vous, Lucas Fournier.
Tout à l'heure, j'ai malencontreusement prononcé le nom de Huysmans, donc je vais le garder.
Pour être fidèle à vous-même.
Pour être honnête avec moi-même, bien que ça ne me paraisse pas être le bon choix.
Alors, Eva Almassi, on vous offre deux Antonin Artaud, pour Patrice Delbourg, pour Jacques Vallée, avec un peu d'étonnement de part et d'autre, et un Huysmans pour Lucas Fournier. Personne n'a opté pour Aragon.
Oui, mais je vais prendre donc deux pour le prix d'un. C'est bien Artaud qui a écrit ça, mais j'ai trouvé magnifique et c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc je trouve cette sincérité hors ou pas encore de folie et bien avant l'analyse par Jacques Lacan extrêmement touchant. Et le texte, mais bon, vous n'avez pas eu le début, c'est un tout petit texte, ça s'appelle La vitre d'amour. Et donc vous avez eu le tiers, un tiers du texte où interviennent d'ailleurs Hoffmann vient hanter ses rêves, de même que Gérard de Nerval, de même que Mac Orland, et à la fin Héloïse et Abélard. Donc c'est un texte surréaliste où il dialogue dans une sorte de délire de désir pour la bonne qu'il décrit comme
voyez,
ça au début.
Oui.
Au début, je la voulais miroitante de fleurs avec de petits volcans accrochés aux aisselles et spécialement cette lave en amande amère et qui était au centre de son corps dressé. Donc, plus licencié un petit peu au début.
Mais là, on aurait trouvé avec cette phrase.
Ah oui, là, il fallait laisser la phrase.
C'était dans une revue. Non, c'est antérieur à tout ça. Ça date du 1er juillet 1925 et c'était publié dans la revue européenne. Voilà, donc il était jeune, il n'a pas achevé ses propres vingtaines, mais il n'était plus un jeune étudiant quand il écrit ça.
On sent le poète avec la nuit faisait son métier.
Ils sont très dépités. On a quand même deux vainqueurs Patrice Delbourg et Jacques Vallée. Un mot de conclusion?
Mais voilà, relisez Artaud. Regardez le film de Gérard Mordilla.
Des papouilles dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard avec Anne de Pelchin et Claude Niort. À podcaster sur franceculture.fr pendant un an. Pour vos questions, remarques, direction la rubrique commentaires des papous. Ou bien notre page Facebook, rejoignez-nous, la porte est grande ouverte. On se retrouve dimanche à 12h50 pour de nouvelles aventures papouesques. Au revoir, passez un bel après-midi à l'écoute de France Culture. Vous y serez toujours en bonne compagnie.
Quoi